Colloque thérésien, Centre spirituel de Notre-Dame de Vie, septembre 1982. Thérèse d'Avila, vue par un réformé, par le pasteur Domas.
Ma joie est très grande de vivre avec vous un écuménisme de qualité. Et j'ai appris à vivre cet écuménisme au contact des frères et des moines apostoliques de Saint-Jean de Malte à Aix, avec qui ma faculté de théologie et moi-même avons des relations vraiment très pures, très fondées bibliquement, très belles, et je dirais avec pratiquant un écuménisme qui n'est pas concession mutuelle, mais un écuménisme de respect les uns envers les autres et un écuménisme qui ne cherche pas le plus petit commun dénominateur. En prolégomène à mon exposé, je voudrais faire ces quelques remarques. Peut-être que l'athée aurait une position plus facile que la mienne ce matin. J'ai lu des livres laudatifs sur Thérèse d'Avila de la part de plumes d'adeptes et de praticiens de sa foi. J'ai lu aussi des livres de gens du dehors, d'agnostiques ou d'athées. Ma position de protestant, je voudrais que vous la mesuriez, est plus difficile. Être dans le coup, mais pas tout à fait, est une situation inconfortable. Lors de cérémonies très marquées par le catholicisme le plus romain, j'ai souvent souffert de cette position, souffert d'être un peu appréhendé par le public autour de moi comme un athée ou un contempteur de la foi catholique. Cependant, je vous dois mon attitude protestante, sans masque, sans phare, sans complaisance dédouanante. Mon attitude protestante la plus honnête possible face à Thérèse d'Avila. Mais je voudrais, et c'est ma prière ce matin, qu'il n'y ait pas une seule personne ici meurtri, blessé par ce que je dirai, que nul ne voit dans aucune de mes paroles une atteinte délibérée, irrespectueuse contre sa foi. Parler de sainte Thérèse d'Avila, c'est pour moi comme quand on entre dans un sanctuaire, on a crainte de le profaner. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, Père éternel et tout-puissant, nous reconnaissons et confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs. Nés dans l'esclavage et l'engrenage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes d'aucun bien. Nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints commandements, attirant sur nous par ton juste jugement et la condamnation et la mort. Mais Seigneur, nous avons une vive douleur de t'avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos fautes, avec une vraie repentance, recourant à ta grâce et te suppliant de nous venir en aide dans notre misère. Veuille donc avoir pitié de nous Dieu très bon, Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. En effaçant nos souillures, daigne continuellement augmenter en nous les forces et les grâces de ton Saint-Esprit, afin que, en reconnaissant de tout notre cœur combien nous sommes coupables, nous recevions de toi sans cesse ta miséricorde, ton pardon, afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes, nous en soyons vivement touchés, nous y renoncions de tout notre cœur et nous produisions des fruits de justice et de sainteté qui te soient agréables par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Le risque du protestant, dans son désir de soumission sans médiation à l'autorité de la Bible, à la sola scriptura en tant que source et norme de foi, le risque du protestant est de discréditer la tradition de l'Église. Selon le mot de l'évangéliste Spurgeon, le protestant s'intéresse non pas au Père, mais au Grand-Père, tant il est ancré opiniâtrement dans le dépôt révélé des auteurs canoniques. Le huguenot est l'homme du dialogue immédiat avec l'Écriture. Il a peine à voir, et quand il le fait, c'est pour le regretter, qu'il y a entre l'Écriture et nous une épaisseur historique. Même dans son labeur théologique, il veut construire à neuf et regrette, je le regrette d'autant plus que je suis historien moi-même, il relègue l'histoire de l'Église au rang de chausse-trappe ou de manies archaïques. C'est bien là un réflexe que le dogmaticien réformé peut presque justifier et que l'historien de l'Église peut comprendre quand il salue dans la réformation du XVIe siècle un retour à la parole de Dieu. Voyez Luther. « J'en appelle à l'Écriture, dit-il, et Eck, le théologien catholique romain, m'offre les pères. J'en appelle au soleil et il me montre ses lanternes. Je demande où est votre preuve scripturaire et il m'avance, Ambroise et Cyril. Avec tout le respect dû au père, je préfère l'autorité des Écritures. Cependant, le renouveau réformé dans lequel nous entendons nous situer, se veut catholique avant que d'être réformé. La réforme, pour nous, n'est pas une révolution qui ferait aboutir l'Église dans le tout autre, mais une reformation, une remise sur la forme, comme un chapeau déformé que l'on voudrait reformer. Une reformation visant à ramener l'Église dans le meilleur filon de sa tradition. Il s'ensuit une redécouverte de son histoire, mais vue alors comme un vaste commentaire doctrinal, homilétique, spirituel de cette Écriture à laquelle nous sommes attachés. Au reste, c'est au creuset de la Bible que sera éprouvé et lu l'ensemble de la tradition. Cette tâche, nous la voulons, mais elle nous est plus facile à actualiser lorsqu'il s'agit des témoins de l'Écriture dans la période où l'Église latine est encore une, les pères, les grands docteurs du Moyen-Âge, les pré-réformateurs. La difficulté pour nous est de nous aventurer dans la tradition spécifiquement romaine de l'Église du siège patriarcal de Rome à partir de la réforme du XVIe siècle. Nous ne sommes plus alors face à une tradition commune, mais face à une tradition très typée, particulière au catholicisme romain. Et c'est là où Thérèse d'Avila fait problème. Nous ne sommes pas naturellement encouragés à la lire, à l'écouter. Mais plutôt, elle serait entrée peut-être dans la pré-réforme et aurait attiré notre recherche et notre sympathie. Or, elle s'inscrit dans la contre-réforme, dans cette réorganisation énergique, dans ce durcissement sans concession de l'Église romaine d'alors. Aussi, comme vous l'aurez remarqué, il y a peu de titres provenant de plumes protestantes dans la bibliographie thérésienne. Très récemment, nous avons trouvé cependant deux travaux, deux thèses. Une thèse soutenue en juillet 1893 à Montauban par Édouard Genonville et parue sous le titre « Sainte Thérèse et son mysticisme ». Un travail très partial, faible, uniquement basé sur l'autobiographie de Thérèse d'Avila. Et puis une autre thèse plus objective et de meilleure qualité présentée à la faculté de théologie de l'Église évangélique libre du canton de Vaud par Théodoro Vassereau, Sainte Thérèse et le développement de sa théologie mystique, 1904. Dès lors, vous comprenez pourquoi mon imprudence a été grande d'avoir accepté de travailler sur ce front pionnier à cet exposé que j'ai l'honneur de vous présenter. J'aurai quatre parties très inégales en longueur. La première partie, mystique thérésienne et protestantisme. Une deuxième partie, Thérèse d'Avila et l'écriture sainte. Troisième partie, charismes et soumission aux autorités. Quatrième partie et dernière, Thérèse d'Avila devant la souveraineté de Dieu. Mystique thérésienne et protestantisme. Vous trouverez en nous un esprit plein d'admiration pour les dons précieux que Dieu a départis en Thérèse d'Avila. Ce qui nous frappe d'abord, c'est cette nature riche, cette personnalité séduisante, passionnée, inquiète, romanesque et mystique. Elle incarne pour nous une aventure intérieure pleine qui cingle vers ce grand large où elle se détermine sans cesse à chercher Dieu pour s'y engloutir, corps et âme perdus. C'est l'itinéraire d'une longue intimité avec Dieu, un frémissement de vie affective, consumé de l'intérieur, mais avec une maîtrise telle qu'il n'est lisible au fond que de Dieu seul. Bien sûr, il y a les phénomènes extraordinaires de ces expériences suprarationnelles, sans doute mêlées d'éléments ambigus, mais qui sont en réalité l'épiphénomène d'une transformation profonde qui préside au colloque intime de Thérèse avec Dieu. Et il faudrait être un infirme de la vie intérieure pour ne pas voir la valeur exceptionnelle et toujours actuelle de la spiritualité de Thérèse d'Avila, de son oraison, ce maître mot de sa doctrine spirituelle, cette prière silencieuse qui est une amoureuse et persévérante attention à Dieu. L'oraison mentale, dit-elle, n'est à mon avis qu'un commerce intime d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait aimé. Les citations que je fais sont faites à partir du texte français de Marcel Auclair, mais ici ou là retouchées d'après le texte espagnol. Cette femme d'action qui garde jusqu'à la fin les pieds sur terre avec son solide bon sens, à Lorenzo elle dit « Dieu préfère votre santé à vos pénitences ». Avec beaucoup d'humour, une innocente malice, un esprit, avec ce quelque chose en plus, vous savez, de la réclame William Sorens, un esprit pétillant. Cette femme d'action nous invite à accéder au plus haut sommet de l'union mystique, dans la proximité de la présence de Sa Majesté. Et ce terme d'union mystique, le protestant pourrait s'en étonner. Et je m'en suis personnellement étonné. Cette expression d'union mystique est utilisée par Calvin dans le texte latin de l'institution de la religion chrétienne. Elle figure dans les chapitres 6 à 10 qui forment un traité admirable de spiritualité très dense, comme sortie de l'institution chrétienne par après et réédité à part dès 1545 sous le titre « Traité très excellent de la vie chrétienne ». Cette notion d'union mystica désignant l'expérience de notre union avec le Christ. Certes, et c'est peut-être parce que je n'arrive pas jusqu'au bout à le reconnaître, il ne faudrait pas trop presser cette expression d'union mystica chez Calvin, parce que la traduction « union sacrée » de Calvin lui-même suggère qu'il ne s'agit peut-être pas de la mystique au sens technique de ce terme, mais le terme d'union mystica est dans le texte latin. Le protestant, nous semble-t-il, doit reconnaître en cette moniale castillane, et pour le coup, l'habit fait le moine, tant elle est tramée, tissée, dans le scapulaire carmélitain donné à son ordre pour protection d'amour, il y a 7 siècles, le protestant doit reconnaître une autorité en matière de spiritualité. Thérèse nous dévoile, comme un amant livre un secret, sa doctrine mystique basée sur ses propres expériences. Elle nous donne une description détaillée du cheminement de l'âme jusqu'à l'union totale avec Dieu, jusqu'au mariage spirituel, ce mystère de grâce et de tendresse devant lequel tremble la parole. Une vie mystique qui n'est comprise que par un cœur aimanté, attiré par l'amour. Une vie qui n'isole pas du monde, ne met pas à l'abri des petites et des grandes épreuves, mais les fait recevoir comme des blessures d'amour. Une vie dure qui lui arrache ce cri « Je vis sans vivre en moi-même » avec l'espoir d'une vie si haute que je meurs de ne point mourir. Bien sûr, le protestant peut être dérouté par l'absence de réflexion dogmatique sur son expérience. Il souhaiterait une méthode plus déductive venant de la parole pour rejoindre l'homme, plutôt que cet itinéraire inductif qui accorde le primat à l'expérience, à l'effusion sensible et comporte de ce fait des risques de déviation et d'absolutisation. Et il est vrai que ce subjectivisme peut être suspecté d'illuminisme et qu'il sera difficile d'opérer une discrimination à la fois entre le normal et le pathologique et entre le psychisme humain toujours perméable à quelque esprit anonyme, terrien ou démoniaque et le Saint-Esprit. Thérèse d'Avila est consciente des dangers et des contrefaçons. Elle refuse une piété exaltée dont la raison ne pourrait pas discerner avec sûreté l'authenticité. Qu'il soit bien entendu, dit-elle, que nous devons nous méfier de tout ce qui nous prive du libre usage de la raison, car ce n'est pas ainsi que nous gagnerons la liberté de l'esprit. Un équilibre où intelligence et expérience se marient. Alors la question, le mysticisme est-il une réalité acceptable pour le protestantisme? Y a-t-il un mysticisme protestant? Et le théologien réformé est là plutôt déconcerté, méfiant à l'égard de la mystique. Il y voit une tentative d'abolition de la distance qui sépare le domaine divin et la créature. Homme de la crainte de Dieu, pétri dans la tradition vétérotestamentaire qui a toujours affirmé que voir Dieu, c'est mourir. Il proscrit toute violation de ce qui est de Dieu. Sa révérence de Dieu lui fait recevoir cette parole de l'Écriture, « Dieu est au ciel et toi sur la terre ». Ainsi, le protestantisme répugne à tout mélange sentimental, à toute absorption de la personnalité humaine dans la divinité. Il ne saurait y avoir d'ascension de l'éros mystique avec ce transfert quelquefois suspect du vocabulaire amoureux dans la sphère religieuse vers le divin. Et l'échelle de Jacob est à sens unique, c'est le mouvement descendant de l'agapé, de Dieu vers l'homme que Jésus-Christ suivra en son rôle de médiateur. Le pasteur Jean Bosc, dans les études carmélitaines, commente. Ainsi dit-il, en autorisant l'homme à franchir dans un sens ascendant la frontière que Dieu seul a pu et a voulu franchir en descendant vers nous, la mystique ne met-elle pas en cause la valeur unique de l'incarnation? Elle pousse l'homme à la franchir aussi d'une autre manière, en le persuadant qu'il peut, dès le siècle présent, pénétrer dans un monde que seul le retour du Fils manifestera pour nous, c'est-à-dire en exténuant l'eschatologie, tandis qu'elle veut la dépasser. L'alternance peut être, pour le protestant, à la mystique et la foi. Une foi qui est certitude, fiducia, confiance, fiance, une adhésion du cœur. Je cite le docteur André Schlemer. Si la foi est vraiment la seule forme de mysticisme qui soit purement et spécifiquement évangélique, l'Église réformée selon la parole de Dieu n'en a besoin d'aucune autre sikhe et ne doit pas en cultiver d'autres pour être fidèle à la vocation que Dieu lui a confiée auprès des âmes. Elle ne manquera de rien par la foi, elle reçoit tout. En dépit de l'inadéquation du protestantisme à la mystique, Le mysticisme de Thérèse d'Avila a historiquement influencé une partie du protestantisme. Le piétisme ou revivalisme, qui s'est voulu une riposte à une sécularisation rationaliste de la pensée protestante. L'influence de Thérèse d'Avila s'est exercée sur ce qu'il est convenu d'appeler les mystiques protestants, en particulier Hank, Arnold et Terstingen. Johann Hank, A-R-N-D-T, 1555-1621, luthérien orthodoxe, vir Placidus, Candidus, Pius Doctus, combat contre une théologie scolastique et polémique pour instaurer, par une discipline sévère de sanctification, une doctrine de la vie spirituelle unissant le fidèle au Christ.
Vous pouvez retourner la cassette sans la rembobiner.
Voici ce que j'ai voulu, écrit-il. C'est d'une extraordinaire actualité. D'abord, détourner les étudiants et les pasteurs de cette théologie étroite et batailleuse qui menace de nous ramener à la scolastique. Ensuite, conduire les âmes de la foi morte à la foi vivante, de la science pure et de la théorie à la piété pratique et féconde. Montrer enfin ce que c'est que la vraie vie chrétienne inséparable de la vraie foi et ce que signifie cette parole de l'apôtre « Je ne vis plus moi-même, mais Christ vit en moi ». Son mysticisme saint, scripturaire, qui ne se détachera pas du dogme traditionnel, connaîtra un grand rayonnement, surtout grâce à son livre « Le vrai christianisme », 1606, publié en 1687, grand rayonnement tant dans le protestantisme que dans le catholicisme et que même dans l'orthodoxie. Par exemple, saint Tikhon de Zandonsk, évêque de Voronèse, puis solitaire au monastère de Zandonsk, 1724-1783, qui s'appropriera même le titre d'âme le vrai christianisme pour son œuvre sur la rédemption. Gottfried Arnold, A-R-N-O-L-D, 1666-1714, un saxon piétiste, mais d'un piétisme cette fois dangereux, préférant à la fois dogmatique une sentimentalité intellectuelle où l'homme est totalement passif sous l'influx de Dieu. Au contraire d'Arnold, la mystique réformée du Hollandais Gerard Terstingen, T-E-R-S-T-2-E-G-E-N, 1697-1769, influencé lui aussi par Thérèse d'Avila, sa mystique est très pure de tout sentimentalisme illuministe, de toute scorie étrangère à la révélation biblique. Ses principaux livres, Le chemin de la vérité, La vraie théologie du Fils de Dieu, Le jardin spirituel. En 1724, le mercredi saint, il signa de son sang l'engagement de se consacrer au service du Christ. À mon Jésus, je me consacre à toi, mon unique sauveur, mon époux, Jésus-Christ, pour t'appartenir entièrement et pour l'éternité. Je renonce de tout mon cœur et dès aujourd'hui à tous les droits et à tout le pouvoir que Satan m'a injustement donné sur moi-même. Car tu m'as acquis par ton agonie, tes luttes et ta sueur de sang en Gethsémanie. Tu as brisé pour moi les portes de l'enfer et tu m'as ouvert le cœur plein de charité de ton Père. Que dès aujourd'hui, tout mon cœur et toute mon âme te soient donnés en retour. Que dès ce moment et dans l'éternité, ce soit ta volonté qui se fasse et non la mienne. Ordonne, gouverne, règne en moi. Je te donne tout pouvoir sur moi et je te promets avec ton aide et ton secours
de répandre la dernière goutte de mon sang plutôt que de te désobéir volontairement ou te devenir infidèle. Je me donne tout entière à toi, doux ami de mon âme, et je veux m'attacher à toi pour toujours. Que ton esprit ne m'abandonne jamais et que ta mortelle agonie me soutienne toujours. Oui, amen. Que ton esprit scelle ce que promet ici en toute simplicité ton indigne esclave, Gerhard Terstingen. Après cette consécration, Terstingen mène une vie spirituelle unie au Christ par une piété sûre, très enracinée bibliquement, calme, tout en étant quelquefois douloureuse. Il pose le problème, et ceci ne nous éloigne pas de Thérèse d'Avila, mais nous y ramène, de l'interférence entre ce que l'esprit dit directement et la médiation extérieure de l'esprit, non pas celle captée, possession de l'Église représentative face à laquelle Thérèse d'Avila se situera, mais celle de la Bible. Partant, si le protestantisme peut s'autoriser une mystique, elle sera toujours définie et normée par la Bible. C'est elle le tranchant de la vérité qui exclura l'erreur et le mensonge. Il ne saurait donc y avoir, sous peine de désobéissance illuministe, d'expérience sensationnelle, inspiration, vision, miracle, même revendiqué de l'Esprit de Dieu qui aurait barre sur l'Écriture. Il faut se soumettre au lien étroit entre Saint-Esprit et parole de Dieu. « Spiritus in verbo operans », disaient nos docteurs. L'Esprit agit dans et par la parole et vient en accompagner et en souligner le sens. Et alors, scandaleusement, curieusement, Thérèse d'Avila aura une influence sur le fondateur du méthodisme, John Wesley, 1703-1791, en dépit des préjugés fanatiquement anti-romains de l'Angleterre de son temps. Je passe à la deuxième partie, Thérèse d'Avila et l'Écriture sainte. Thérèse d'Avila n'a pas de connaissance directe de l'Écriture sainte. Elle semble l'avoir connue indirectement par la Vita Christi, œuvre monumentale de Ludolf de Saxe, surnommé le Chartreux. Le franciscain Montesino en avait publié en 1502-1503 une traduction en castillan. Thérèse d'Avila a des réminiscences bibliques rares et évoquées avec peine. Elle n'est pas capable d'indiquer de quels livres bibliques sont tirés des textes pourtant les plus connus. J'ai lu ou entendu quelque part que notre vie est cachée en Jésus-Christ ou en Dieu, ce qui est la même chose, ou bien que notre vie est Jésus-Christ. Que le texte soit celui-là ou un autre, cela importe peu à mon sujet. Ailleurs, elle avoue aussi qu'elle ne sait pas bien où se trouve le verset, qu'il soit un. Contrairement, vous le voyez, à Saint Jean de la Croix, qui n'avait d'autre livre dans sa cellule que la Bible, même si, par ailleurs, il en faisait un usage très libre à cause de la méthode allégorique. Tout prouve que la Bible n'a pas été le livre de chevet de Thérèse d'Avila. La piété de Thérèse, en droit, n'est pas fondée bibliquement. La Bible n'intervient qu'après coup et par la voie détournée d'allusions qui manquent de précision. Allusions qui sont assez rares, nous l'avons dit, sauf dans le château intérieur, le dernier de ses écrits. Mais même ici, la madre ne s'inquiète pas d'exégèse. Les termes, s'ils sont bibliques, sont imprégnés d'une sentimentalité étrangère peut-être pour un protestant au texte. Texte qui sert donc de prétexte à une allégorie, à un symbolisme qui sont encore la grille de lecture du Moyen Âge. Cependant, le réformé doit comprendre le climat politico-religieux dans lequel se situe Thérèse. Ce n'est pas qu'elle veuille prendre ses distances par rapport à la Bible. Elle l'aime et en aura tout de même indirectement une imprégnation familière. Tout le mal qui arrive au monde, dit-elle, vient de ce qu'on ne connaît pas clairement les vérités de l'Écriture. Le problème extérieur à elle est qu'il est interdit de traduire et de lire la Bible en langue castillane, ainsi que d'autres livres de dévotion imprimés en espagnol. Tous ces ouvrages ont été retirés de la circulation dès 1559 du fait de l'interdiction draconienne du grand inquisiteur de Tolède, Fernando Valdés. L'Église d'alors se méfie d'une lecture des Écritures qui se fierait à la seule illumination, au seul témoignage intérieur du Saint-Esprit. Persévérer dans la voie interdite, c'était s'exposer aux soupçons et à la suspicion, comme si l'on manifestait le désir de rejoindre les rangs du mouvement hétérodoxe espagnol connu sous le nom d'Alumbrados, secte piétiste qui joua un rôle dans la première réforme espagnole, mais qui sera brisée dès 1520 par l'Inquisition. Cette mise à l'index inquisitorial de la Bible, avec une vigoureuse approbation du pape Paul IV, aura des répercussions non seulement sur Thérèse d'Avila, mais sur toute l'histoire de la spiritualité, comme le fait remarquer M. Baruzzi, professeur au Collège de France. Avec l'année 1559, dit-il, date de l'emprisonnement de Carranza, l'archevêque de Tolède, date d'apparition du plus important index inquisitorial, le salut sera, pour ceux qui en auront la force, dans une intériorisation de l'expérience. Ainsi faut-il interpréter à bien des égards l'autobiographie de sainte Thérèse. Et c'est ainsi, d'une manière plus générale, que s'expliquerait le jaillissement par-delà les obstacles d'une mystique castillane originale et créatrice, comparable par sa beauté à la mystique germanico-flamande du XVIe siècle. Mais des déficiences théoriques qui la limiteront ont leur source en une sombre destruction de richesses intellectuelles. Beau thème de recherche pour l'historien du christianisme. Il est peu de tâches en ce qui concerne le XVIe siècle qui soient plus fécondes en résultats. Fin de citation. Et il est beau de voir Thérèse d'Avila privée de la Sainte Écriture se rattraper par compensation sur l'autre parole de Dieu, le Christ vivant lui-même. Lorsqu'on défendit de lire plusieurs livres traduits en castillan, j'en eus beaucoup de peine. J'en lisais quelques-uns avec plaisir et désormais, ne comprenant pas le latin, je m'en voyais privé. Notre Seigneur me dit, n'en aie point de peine, je te donnerai un livre vivant. Il ne me fut pas donné alors de saisir le sens de ces paroles parce que je n'avais pas encore eu de vision. Mais peu de jours après, il me fut facile de l'entendre. En effet, j'ai trouvé tant à penser et à me recueillir dans ce que je voyais présent, et notre Seigneur a daigné lui-même m'instruire avec tant d'amour et de manière que je n'ai eu que très peu ou presque pas besoin de livres. Ce divin maître a été le livre véritable où j'ai vu les vérités. Bénédiction à ce livre vivant qui laisse imprimer dans l'âme ce qu'on doit lire et faire, de telle sorte qu'on ne peut l'oublier. Ailleurs, elle parle du Notre Père comme un vestige biblique que personne ne pourra enlever aux chrétiens. On pourra enlever nos livres, mais on ne pourra pas nous prendre le livre sorti des lèvres de la vérité elle-même. Ainsi le Christ béni soit-il. Deviens pour la madre le livre vivant où elle peut lire les vérités de Dieu. Troisième partie, charisme et soumission aux autorités. Ce qui séduit aussi le protestant, c'est cette souveraine liberté, la hardiesse de cette femme que l'on sent libre, libre de croire, de penser, de parler, d'agir, ce résumé vivant d'une vie libre de l'esprit que Thérèse d'Avila constitue. Mais cette liberté marche chez la madre à pas de raison. Elle ne veut pas récuser au nom de l'actualité de l'esprit le caractère institutionnel de l'Église. Même si elle entend jusqu'au bout rester libre par rapport à un pouvoir de type sociologique, et c'est vrai par exemple qu'elle choisit ses confesseurs, les veut éclairer, lettrer et leur parle avec autorité, elle recourt toujours néanmoins au magistère de l'Église. Elle confie ses inquiétudes, ses hésitations à un grand nombre de religieux très savants. On a pu en dénombrer 89. Et cette dépendance ecclésiale peut la conduire loin, par exemple, immédiatement, selon l'ordre reçu. Elle jettera au feu son commentaire du Cantique des Cantiques. Et elle pose tout le problème du rapport, et nous en saurons sur Jeanne d'Arc un jour, elle pose tout le problème du rapport souvent conflictuel entre charisme et soumission à l'Église militante. Elle ne se décide à agir et même à penser qu'en référence à l'obéissance. C'est un dialogue difficile car sa préférence la conduit vers ceux qui, parmi les hommes d'Église, lui sont opposés. Leur avis est souvent contradictoire. « Je me faisais violence pour les croire », dit-elle. Au total, en Thérèse d'Avila, c'est le charisme reconnu, éprouvé, qui se rapporte à l'institution, avec cette conviction qu'il doit y avoir une confirmation mutuelle entre l'expérience de l'autorité divine directement sentie et l'autorité divine établie par la tradition catholique romaine. Mais son obéissance à l'institution se fait dans la limite de la clausula petri, cette réserve qui s'inspire de la réponse de l'apôtre Pierre au Sanhédrin, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque les exigences de ses représentants sont trop grandes, elle sait se réfugier auprès du Seigneur lui-même et en appeler à lui. Dernière partie, Thérèse d'Avila devant la souveraineté de Dieu. Une des tentations inhérentes peut-être à la mystique est d'intimiser Dieu jusqu'à le domestiquer. Thérèse d'Avila en est préservée par son souci de rendre à Dieu sa plus grande gloire, de l'élever au-dessus de tout. Certes, elle, et peut-être plus que personne, peut-être, elle est immergée dans la proximité de sa présence. Il m'arrivait d'avoir soudain le sentiment de la présence de Dieu de telle façon qu'il m'était impossible de douter qu'il fût en moi ou que je fusse tout abîmé en lui. Mais elle a le sentiment de l'altérité de Dieu, la conviction de sa transcendance. Elle parle du Tout-Puissant, maître du monde, dont la grandeur est sans borne. Sa grandeur emplirait mille mondes et beaucoup plus. Et j'aime cette Thérèse d'Avila qui devient le chantre de la munificente majesté du Très-Haut. Ô notre empereur, puissance suprême, bonté suprême, la sagesse même, sans commencement, sans fin, vous dont les œuvres n'ont point de terme, elles sont infinies et incompréhensibles, un abîme sans fond de merveilles, une beauté qui contient toutes les beautés, la force même. Ô mon Dieu, puissais-je avoir ici à la fois toute l'éloquence des mortels et leur sagesse, pour bien savoir autant que nous puissions le savoir ici-bas, où tout savoir n'est rien, et faire comprendre quelques-unes des choses multiples que nous pouvons considérer pour connaître un peu celui qui est notre Seigneur et notre bien. Oui, réfléchissez et comprenez en l'approchant à qui vous allez parler ou à qui vous êtes en train de parler. Nous pourrions vivre 1000 existences sans concevoir les égards que mérite ce Seigneur devant qui tremblent les anges. Pour bien marquer la grandeur et l'honneur de Dieu, elle le voit sous l'image d'un souverain et l'appelle sa majesté. Vous sentez Calvin, hein? Ô roi de gloire et seigneur de tous les rois, comme votre royaume à vous n'est point fondé sur des fétus de paille, comme il n'est point besoin d'intermédiaire auprès de vous. Il suffit de regarder votre personne, on voit immédiatement que vous seul méritez d'être appelé seigneur, tant vous montrez de majesté. Vous n'avez besoin ni d'escorte, ni de garde, pour qu'on sache que vous êtes roi. Et on comprendra notre émotion. À écouter parler Thérèse d'Avila, nous voyons se profiler la devise de Calvin, Soli Deo Gloria, à Dieu seul la gloire, devise qui a présidé en exergue à notre formation religieuse. Une conclusion. Fruit d'un conflit douloureux, d'une lente maturation, la doctrine spirituelle de Thérèse d'Avila n'est pas la théorie d'un mysticisme abstrait, mais une spiritualité, comme aurait dit Calvin, une spiritualité de pratique, qui est passée d'abord dans sa propre vie intérieure. Bien sûr, c'est sa propre histoire avec ses divers degrés que Thérèse, avec empirisme, universalise sans scrupule. Ce point de vue expérimental qui est le sien avec son psychologisme, son sensorialisme qui attache de l'importance à la vie des sens, souffre, peut-être pour moi, de l'absence d'un a priori, d'un motif biblique fondateur et intégrateur pour gouverner la piété. C'est ce manque d'ancrage dans la parole révélée de Dieu qui nous paraît ultimement le point névralgique de la pensée et de la pratique de Thérèse d'Avila, même si, comme nous nous sommes essayés à le montrer, elle n'en porte pas seule la responsabilité. Dans les dernières paroles, voyez, je fais de l'écuménisme protestant, dans les dernières paroles que Martin Luther a écrites, les Ultima Verba du 16 février 1546, nous lisons « Personne ne peut comprendre Virgile dans ses bucoliques et dans ses géorgiques, à moins d'avoir mené pendant 5 ans la vie de berger ou d'agriculteur. Personne
ne peut comprendre Cicéron dans ses lettres sans avoir participé pendant 20 ans à la direction des affaires publiques, et personne ne pense avoir étudié assez l'Écriture sainte sans avoir dirigé des églises pendant 100 ans. Nous sommes des mendiants, voilà la vérité. Au-delà de nos admirations et de nos critiques, sainte Thérèse d'Avila demeure, dans son mystère, un maître de vie spirituelle pour tous les temps. J'ai entrepris d'expliquer un prophète, alors que je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, j'ai essayé de dire. Thank you.